Cher Emmanuel, je vous salue et je vous dis non. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue également et je vous dis non. Non merci, mais non quand même. Enfin, rassurez-vous, le non n'est pas toujours un refus, c'est aussi parfois une libération. Et une libération très à la mode, si on en croit le philosophe Vincent Delacroix, qui devant la multiplicité des noms qui fleurissent de ci, de là, en vient à rêver de pouvoir dire oui, juste par esprit de contradiction. L'histoire du non, c'est aussi la nôtre, depuis le refus de se coucher, bonne nuit les petits, au refus de suivre une cure de désintoxication, souvenez-vous, Amy Winehouse. Nous sommes ce que nous sommes parce que depuis tout petit, nous avons dit non.
Bonsoir les enfants.
Bonsoir l'ours.
Mettez-vous au lit, j'ai un tas de bonnes histoires à vous
raconter. Non, non et renom.
Non et renom. Que se passe-t-il? Vous avez un problème?
Non.
C'est tout ce que vous savez répondre?
Oui, non.
Nos copains à l'école, ils trouvent qu'on fait tout ce que tu dis.
Qu'on est trop sages.
Ah bon?
Alors ce soir, on veut pas d'histoire.
Tant pis.
Et surtout, on veut plus se coucher.
Plus jamais.
Plus jamais au lit?
Oui.
Non.
Non, et renom.
Oh là là, c'est vos parents qui vont être embêtés.
On s'en fiche.
I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go.
Bonjour Vincent Delacroix.
Bonjour.
À quoi dites-vous non ? À l'appel du lit ou à la cure de désintox ?
J'ai dû dire non à l'appel du lit, oui, il y a bien longtemps. Maintenant, ce serait plutôt oui, mais c'est excellent. Ça, j'avais oublié la bonne nuit les petits, mais c'est quand même c'est extraordinaire. Quant à Amy Winehouse, elle aurait peut-être dû dire oui quand même à la fin. Franchement, elle serait.
Il y a des noms formateurs. Le nom de l'enfant qui dit non pour la première fois est nécessaire. Il y a des noms qui parfois
destructeurs.
Destructeurs.
Ouais, absolument. C'est pour ça que avant de lui attribuer une valeur absolue, il vaudrait mieux se renseigner un peu sur l'opération et l'efficacité de ce nom-là. Voir, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire.
C'est exactement ce que vous faites dans votre livre.
Dans le livre, ouais, et puis savoir distinguer aussi un certain nombre d'opérations dans cette négation. C'est pas toujours la même chose. On dit, enfin, oui, il y a des noms vers différentes choses, mais l'opération elle-même n'est pas toujours la même. C'est pas nécessairement une pure négation, par exemple.
Le livre s'appelle Non de l'esprit de révolte. Il est disponible aux éditions Autrement. Vous êtes directeur d'études en philosophie de la religion à l'École pratique des hautes études. Vous avez publié en 2017, Ascension, vous avez publié l'Apocalypse du politique, vous étiez venu en parler à ce micro aux éditions des Clés de Brouwer. Pourquoi écrire sur le nom de l'esprit de révolte? C'est parce que vous constatez un accroissement du non, tout le monde dit non?
Il y avait deux choses. Oui, il y avait une raison circonstancielle qui était celle-là, sur laquelle je reviendrai peut-être, et qui était effectivement une certaine exaspération devant une hypervalorisation. Alors, je dis pas que, enfin, c'est pas un plaidoyer pour le conformisme et l'acceptation. Au contraire, j'espère que c'est le contraire, justement. Et je trouvais que, justement, il y avait dans une certaine valorisation ou hypervalorisation du non, un certain conformisme, je dois avouer. Paradoxal, mais les éloges de la désobéissance tous azimuts, de la contradiction, de la contestation, de la protestation qui fait qu'on est héroïque à bon compte, m'exaspérait au plus haut point, et d'autant plus que ça me paraissait induire une espèce de dévalorisation finale de la négation. Je trouve qu'à trop la valoriser, à trop l'utiliser à tort et à travers, on émousse complètement la pointe. Quand vous vous révoltez contre tout ou rien, justement, vous finissez par accepter tout. Et c'est ce que j'essaie de montrer aussi, c'est qu'il y a non seulement une espèce d'usage extensif, hyperbolique, du non qui fait que, bah, puisque la domination est partout, puisque la collaboration, la soumission est partout, il faut tout le temps dire non. Finalement, vous faites un non indistinct qui n'a plus aucune efficacité. Et puis, en réalité, et paradoxalement, vous vous entraînez très rapidement à accepter. C'est-à-dire à dire oui.
Donc le non est conformiste.
Oui. Et vous finissez par dire effectivement, ça vous prépare à dire oui très vite. Et c'est ça qui m'exaspérait un peu, c'est-à-dire et qui me Enfin, j'essayais de retrouver justement la pointe, ce qui pouvait rendre cette négativité réellement efficace. Et ça rejoignait une autre préoccupation qui était un peu moins circonstanciée, un peu plus de longue haleine avec mes travaux précédents sur l'ironie, sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire sur la négativité en philosophie, en métaphysique, tout simplement essayer de déterminer ce que peut être ce que j'appelle dans le livre une philosophie du nom, voilà, ou à partir du nom.
C'est le titre d'un ouvrage de Bachelard, la philosophie.
C'est le titre d'un ouvrage de Bachelard qui est d'ailleurs intéressant et qui vise en réalité d'abord à expliquer comment l'esprit scientifique se développe, c'est-à-dire en fait l'esprit de connaissance, hein, au sens large du terme, se développe par une négation première, c'est-à-dire dire non aux illusions des sens, dire non aux préjugés, dire non. Enfin, voilà, il y a toute une mythologie de l'esprit éclairé qui repose sur cette négation. Non aux préjugés, non aux idées qu'on nous a appris, etc., etc. C'est Descartes aussi, hein, c'est l'idée que on commence par la table rase, on fait un grand non, voilà, une grande négation, une grande destruction, et puis après on recommence tout à zéro. Cette mythologie de la raison, elle doit être aussi expliquée, déconstruite, analysée, parce que je suis pas sûr non plus qu'elle soit d'une part praticable, parce qu'on dit jamais non à tout. Comme ça, c'est impossible. Au contraire, la vie réclame qu'on dise oui, qu'on accepte, même, j'allais dire, par habitude. C'est vital, tout simplement. Donc, c'est ni praticable, ni peut-être louable. Et c'est pour ça qu'il fallait essayer de trouver un chemin entre une pure négation qui, en fait, est très abstraite, qui signifie pas grand-chose, mais sur lequel on fait reposer une certaine liberté d'esprit. Ah non, moi, je suis anticonformiste, moi, je ne me soumets pas aux dictates, je sais pas trop quoi, etc. Mmh. Et, évidemment, une lâche acceptation, une soumission, une espèce de façon de courber les chines devant la pensée commune, qui est, évidemment, l'exact contraire de la philosophie, ça c'est sûr.
Donc il y a plusieurs noms, on va essayer de les distinguer ensemble parce que c'est le sens de votre livre. Il y a le nom nécessaire de l'enfant qui dit non à ses parents et qui par là teste sa propre liberté, le vertige de la liberté que ça implique et qui ne va pas nous quitter d'ailleurs toute la vie.
Ouais.
Et il y a le nom qui revient beaucoup dans votre livre et peut-être qui cristallise tous ces autres noms, qui est un nom, disons, politique. Et les exemples que vous avez pris ici sont politiques. Mais finalement, ces revendications, que ce soit l'indignation politique, l'insoumission politique, pour faire référence à un courant politique, les insoumis qui disent non à ceux qui se soumettent, ont tous des objectifs très clairs. Ils disent non à quelque chose de précis, l'État, son représentant, une certaine politique, un certain système économique. C'est plutôt le nom lui-même qui n'est pas défini que l'objet de la contestation.
Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que c'est lié aussi au fait, cet usage, encore une fois, extensif et qui nous vient effectivement d'une psychologie de bazar peut-être, qui est liée au fait que, le premier mouvement de l'esprit est un mouvement négatif. Bien sûr, il faut pas être Hegel, mais même si Hegel l'a souligné, mais il faut pas être Hegel pour le savoir. C'est qu'effectivement, l'esprit nie. D'abord, c'est-à-dire l'opération première de l'esprit, se détacher du donné, se détacher de l'émergence de l'esprit, c'est la négation.
Penser, c'est dire non.
Penser, c'est dire non, jusqu'à un certain point à dire vrai, mais en tout cas, l'émergence de la conscience, la distinction entre moi et pas moi, entre l'objet de mes désirs, etc., c'est une négation. Donc, incontestablement, l'esprit naît dans cette négation. Et du coup, on assimile à cette négation première toutes les opérations de l'esprit, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est hyper valorisant et ce qui néglige en fait ce qui se passe vraiment. En réalité, on peut très bien déterminer les objets auxquels il faut dire non, ou les choses, oui. ou les êtres à qui il faut dire non. Mais la première chose, mais je pense que pour ça, il n'y a pas besoin de philosophie, ou pas beaucoup besoin de philosophie. Mais en revanche, savoir exactement ce que c'est que dire non, savoir déterminer quel est le type d'opération qui est engagé dans cette négation, parce que contredire quelqu'un, c'est pas la même chose que nier, c'est pas la même chose que protester, c'est pas la même chose que s'indigner, que dire non à ses parents, etc. Réussir à introduire, j'allais dire, une analyse un peu fine dans ces processus, à mon avis, est à tous égards vital.
Vous dites aussi qu'on dit toujours non à quelqu'un.
Ouais.
Et c'est en cela que le non est toujours politique. Ça présuppose une intersubjectivité, une autre personne à qui on s'adresse.
Bien sûr, c'est pour ça que la logique est très fausse. Enfin, elle est très fausse. Elle nous induit en erreur. C'est-à-dire, on a l'impression que le non, c'est simplement un principe de contradiction. C'est-à-dire, il y a l'affirmation, déjà, le terme d'affirmation fait signe vers une interlocution, en tout cas. Mais on a l'impression que, vous posez une proposition, vous posez une contre-proposition. Oui, non, ce sont des signes logiques, hein. Affirmation, négation. Mais en réalité, et c'est Bergson qui le montre très très bien d'ailleurs, dès le niveau abstrait logique, vous sous-entendez où il y a implicitement une relation à l'autre. Il y a implicitement quelque chose comme une interlocution. Donc en fait, vous ne dites pas non seulement à des choses ou à des propositions, mais bien à quelqu'un qui soutient ces choses ou ces propositions. Et donc, c'est pas simplement d'ordre sémantique, c'est pas simplement proposition contre proposition. C'est une pragmatique du langage, c'est-à-dire relations humaines, relations sociales, intersubjectives, qui fait que les propositions sont soutenues par des personnes. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus intéressant. Parce que la contradiction n'est pas une pure contradiction logique dans ces cas-là. Vous vous engagez dans des règles de la communication qui sont sociales, dans des règles de la communication qui sont bientôt des règles politiques, nécessairement politiques, et qui régissent la vie politique. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu construire mon livre aussi. C'est-à-dire, partir de négations qui peuvent être, j'allais dire, des actes de langage à peu près indéterminés, qu'est-ce que c'est que nier, contredire, etc., pour parvenir à un spectre de plus en plus large vers l'action politique.
D'autant que vous dites que l'essence même de la politique, c'est au contraire l'accord. Enfin, que le désaccord est la hantise du politique, c'est
ouais,
une formule.
C'est ça qui est paradoxal. Et
alors que l'opposition est très saine, en démocratie, il faut une opposition.
Sûr. Et c'est ça, vous avez tout à fait raison, et c'est ça, me semble-t-il, l'une des grandes problématiques très épineuses du temps de crise démocratique qu'on vit actuellement. Et vous êtes frappé comme moi par les appels successifs au consensus, à l'unité nationale, à l'union sacrée, encore pire comme terme. Enfin, quelque chose que je déteste encore plus et qui me paraît encore plus mortifère. Bref, au consensus, à l'accord, etc. Comme si, effectivement, l'état de contradiction ou différence, d'opposition, etc., était un état malsain ou temporaire. Mais c'est l'état démocratique. C'est au contraire l'état démocratique. L'état démocratique, c'est pas le consensus. C'est pas tous derrière un chef en disant oui, en marchant au pas de loi. Hein. C'est exactement le contraire. La vie démocratique est une vie d'opposition, de différence, de différenciation et donc d'absence permanente d'unité. Et il faut toujours se méfier, en tout cas moi j'ai une méfiance instinctive pour les politiques qui prétendent dépasser les oppositions, dépasser les clivages. Alors bien sûr le clivage en soi, c'est pas formidable, c'est pas valorisable, il y a des clivages sociaux, des différences économiques qu'il faut dépasser. Bien sûr que en soi le clivage n'a pas une valeur absolue, mais l'idée qu'on doive à la fin, que le politique ait pour charge à la fin de dépasser les oppositions, ça me paraît produire une image, il faut le dire, très gestionnaire du politique, ou parfaitement dictatorial, antidémocratique. C'est-à-dire, bon, écoutez, maintenant, je vais tous vous mettre d'accord. Le régime de la discussion, tout ça, ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, on se met tous d'accord parce que c'est... Et ça peut être un régime de type même platonicien. C'est-à-dire, les experts gouvernent, maintenant, vous vous taisez, quoi. Nous, on a le savoir. La vérité, elle met tout le monde d'accord. S'il y a des discussions, c'est parce que c'est le règne de l'opinion. Berg, c'est pas bien. Il faut passer au règne du savoir, et comme ça, tout le monde est d'accord. Soit c'est ça, soit c'est une technique purement gestionnaire. Le politique est là, là encore, c'est des experts. Il s'agit de gérer au mieux. Et dans ces cas-là, on discute de quoi? De rien, en fait.
Mais alors, du coup, d'un côté, vous dites que le non est nécessaire à la politique, à la démocratie, qu'il faut de l'opposition, de la contradiction, de la discussion. Et de l'autre, vous reprochez aux expressions du non contemporaines. Quoi, en fait, d'être trop faible, de ne pas se donner les moyens, d'être simplement des noms qui ne sont pas suivis d'action?
Oui, enfin non, pas tellement, c'est... non. Je vais avoir du mal à être positif.
Non, vous avez le droit de répondre non, ça fait avancer la discussion, justement.
Aujourd'hui, c'est un peu ce que j'essaie de montrer. Ou plus précisément, qu'il y a un rôle, là en l'occurrence c'est le mien, qu'il y a un rôle d'une négativité persistante. Mais il y a une façon... Moi, ce que j'essaie, c'est pas de dire, celui-là il a raison, celui-là il a tort.
Non, mais quand même, essayons d'être précis.
De provoquer des discriminations. Ce que j'essaie de considérer, c'est qu'il y a des noms qui, en réalité, sont soit inutiles, soit, j'allais dire, purement temporaires. C'est-à-dire, on accepte que vous soyez en désaccord. Il y a un non productif, d'accord? C'est une espèce de jeu, voilà. Et il est bien entendu, ça peut être ça dans la discussion, justement. Et il est bien entendu qu'à la fin, de toute façon, ce qu'on vise, c'est l'accord. Et la négation ou la contradiction n'est qu'un moment temporaire. Voilà. Et le but, c'est le oui, l'acceptation, etc. C'est une espèce de fantasme. Et à l'inverse, vous avez une espèce de fantasme parfaitement stérile, qui consiste à dire non, tout ce que vous dites, c'est non.
Là, vous pensez à quoi ? À qui ou à quoi ?
À l'insoumission permanente.
Dans les black blocs, ceux qui disent...
Ouais, ça consiste à... Il y a une surenchère du non qui fait, en fait, comme on le voit malheureusement, le jeu de ce à quoi ils s'opposent.
Mais c'est peut-être la seule façon, au contraire, de faire avancer les choses. Pour eux, ceux qui disent non en permanence rejettent radicalement la société, l'état dans lequel ils vivent, et la seule issue pour eux hors de cet état-là, c'est de faire imploser ce système, de dire non jusqu'à ce que tout explose.
Ça, je suis tout à fait d'accord.
C'est pas de l'argumentation, c'est pas du raisonnement, c'est de l'action.
C'est un peu différent. Là où je suis tout à fait d'accord, pourquoi je plaide, si je plaide pour quelque chose, c'est la persistance de ce non. C'est-à-dire quelque chose, c'est ce que je dis au début, et qui est lié à une certaine, pas nécessairement une complexion psychologique, mais en tout cas une certaine réticence à l'égard de l'ordre du monde. C'est-à-dire de considérer que tout ce qui relève de l'ordre du monde relève d'un consentement, et que tout ce qui relève d'un consentement est louche. C'est-à-dire que il y a un moment où il faut se méfier du consentement tacite. Voilà. Et que la pertinence et la productivité du non relève de ce réveil, encore une fois, de l'esprit, qui consiste à dire, oh, attention, nous sommes en train de nous endormir, nous sommes en train de consentir, nous sommes en train... Bon. Et c'est la raison pour laquelle cette espèce de permanence, qui peut paraître stérile, mais cette espèce de permanence de la négation, quelque chose comme une espèce de position... Non pas intransigeante, mais inconsolable aussi, qui ne veut pas se satisfaire des réponses rapides, des théodicées, vous disant les inégalités, c'est naturel, on pourra jamais les combler, c'est comme ça, c'est la nature, ou le mal existe, oui, c'est la nature humaine.
Fatalisme.
Cette espèce de fatalisme qui vaut aussi bien dans la théodicée, pour ce qui est, puisque c'est ma partie pour la philosophie de la religion, que pour le libéralisme naturaliste, qui consiste à dire c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? De toute façon, il y aura toujours des inégalités, et puis, etc. Non, non, voilà, non. C'est aussi simple que ça, c'est d'abord, c'est non. Et après, on voit. Alors peut-être c'est bas du front, peut-être c'est énervant, mais ce que j'ai essayé de retrouver, c'est aussi cette impulsion première, dans l'indignation notamment, et Dieu sait si l'indignation est dévaluée, Dieu sait si c'est quelque chose depuis Stéphane Hessel, Dieu sait si c'est quelque chose qui a été vraiment utilisé à tort et à travers, et qui cache bien souvent une espèce de moralisme, et pas de la morale, j'essaie de faire la distinction, une espèce de moralisme qui se contente de l'indignation tous azimuts.
Quelle est la distinction entre morale et moralisme ?
La distinction, c'est que il y a une négativité qui est un pur sentiment moral. C'est-à-dire, ça c'est de la morale. C'est-à-dire, et c'est bien ce qui énerve les gens qui veulent que la politique soit juste la gestion des affaires, c'est dire non, là, non, pas possible. Je suis désolé, on peut m'expliquer 15 000 fois qu'il vaut mieux rejeter les migrants à la mer parce qu'on risque d'être envahi, qu'il faut monter des murs parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim et qui menacent notre société. Là, c'est non. C'est aussi simple que ça. Après, si vous voulez discuter d'arguments réalistes, tout pseudo-réalistes à mon avis, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais d'abord, encore une fois, une personne humaine n'est pas illégale, une personne humaine a des droits, ou même pas de droits, c'est même peut-être au-delà de ça. Là, c'est non. Et il y a une introduction de la morale, une espèce de réaction purement négative et peut-être épidermique, qui est tout sauf du moralisme. C'est pas donner des leçons, mais c'est dire, là, je ne transige pas. Là, sur la vie d'un homme, sur les droits humains fondamentaux, je transige pas et vous pouvez discuter autant que vous voulez, me donner des arguments aussi rationnels que possible. Là, c'est non.
Alors que le moralisme,
ça consiste à s'indigner de tout et rien. Il y a, je pensais à Ruven Augien, par exemple, qui avait une morale hyper libérale, justement, mais qui a pointé justement l'espèce de ce qu'il appelle la panique morale à la suite d'un certain nombre de philosophes américains, et cette idée que il y a une espèce de surproduction par l'indignation morale, de surproduction du droit. Tout devient quelque chose d'intolérable. Et ça c'est du moralisme. C'est du moralisme inepte. Et à mon avis, ça produit l'exaspération du con d'en face, mais ça, on s'en fiche. Mais surtout, ça produit une dévaluation du droit lui-même. Ça, c'est clair. Une prolifération anarchique et absurde du droit. et qui finalement, c'est ça le pire, s'accommode très facilement, j'allais dire d'une certaine, par super moralisme, d'une certaine immoralité.
D'où vient cette passion de la négation? Parce que finalement, dire non depuis toujours et continuer à dire non sans forcément chercher à élaborer ce non, à se donner les moyens d'agir selon ce non, est une constante du caractère humain qu'on peut constater dans tous les pays de notre planète, qui revient, et ça c'est le philosophe Nietzsche qui semble le dire, qui revient, qui s'indexe sur une forme de passion, cette passion de la négation qui fait que nous ne pouvons pas ne pas dire non, mais, nous dit-il, il faudrait ne pas s'en arrêter là. Écoutez ce texte.
Dans quelle étrange simplification et falsification vit l'homme? On n'en finit pas de s'émerveiller, pourvu qu'on se soit d'abord fait les yeux qui permettent de voir cette merveille. Comme nous avons rendu tout ce qui nous entoure clair, libre, facile et simple, comme nous avons su octroyer à nos sens un passeport pour tout ce qui est superficiel, à notre pensée un désir divin de bon, malicieux et d'erreur de raisonnement, comme nous avons su d'emblée nous y prendre pour préserver notre ignorance, pour jouir d'une liberté, d'une absence de scrupules, d'un manque de prudence, d'une hardiesse, d'une gaieté d'esprit dans notre vie à peine concevable pour jouir de la vie. Et c'est uniquement sur ce fondement d'ignorance, désormais inébranlable et granitique, que la science a eu jusqu'à présent le droit de s'élever. La volonté de savoir s'est édifiée sur le fondement d'une volonté bien plus vive, de la volonté de ne pas savoir, volonté d'incertitude, de non-vrai, non comme son contraire, mais comme son affinement. Le langage peut bien, ici comme ailleurs, rester prisonnier de sa balourdise et persister à parler d'opposition là où il n'y a que des degrés et un subtil échelonnement complexe. La tartufferie incarnée de la morale, qui fait désormais invinciblement partie de notre chair et sang, peut même également faire dévier les mots dans notre bouche à nous, hommes de savoir. Ça et là, nous le comprenons et nous rions de ce que la meilleure science soit justement celle qui veut nous maintenir le mieux dans ce monde simplifié, artificiel, de bout en bout, recomposé à souhait, falsifié à souhait, de ce que, d'une volonté involontaire, elle aime l'erreur, parce qu'elle, la vivante, aime la vie.
The yes needs a no to win against the no.
De l'esprit de révolte, c'est le titre du livre de philosophe Vincent Delecroix paru aux éditions Autrement qui est avec nous aujourd'hui en studio pour en parler. Nous venons d'entendre un texte de Nietzsche, prélude à une philosophie de l'avenir, donc dans Par-delà le bien et le mal, lu par Georges Clès. Et puis, la voix, vous l'aurez peut-être reconnue, de Jean-Pierre Raffarin, c'était au moment son discours en faveur du oui au référendum de la Constitution européenne. Le oui a besoin du débat pour gagner, essayait-il de dire en anglais, qui vient illustrer la phrase de Nietzsche, hein, le langage peut bien, ici comme ailleurs, rester prisonnier de sa balourdise. Et en fait, c'est ça.
Un lien entre Raffarin et la balourdise du langage? Non, moi je me garderai bien.
Moi je le fais.
Allez-y.
Parce que pour le coup c'est assez flagrant. Parce
oui,
que
c'est vrai.
Yes qui dit no, et en plus c'est en anglais.
Je suis fasciné par vos archives sonores.
C'est-à-dire que là, on a vraiment la preuve que le langage parfois peut ne rien dire, d'autant quand on impose un yes à un no qui devrait dire un yes en anglais, donc ça montre encore plus le ridicule. Et Nietzsche, comme presque toujours quand on le convoque, vient nous éclairer sur cette question. En fait, ce qu'il dit entre autres dans ce texte, c'est que dans le non, dans la négation, ce qu'il manque, c'est de la nuance.
Ouais, c'est la clé de ce texte.
Entre le oui et le non.
La clé de ce texte génial est très, j'allais dire, auquel il faut se confronter justement. Et ça faisait partie vraiment des pierres d'achoppement quand j'ai écrit ce bouquin, parce que c'est très très difficile de se sortir de cette critique-là. C'est-à-dire l'idée que la balourdise du langage, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire d'un certain type de langage, c'est le langage en général. C'est-à-dire que ce n'est pas tel ou tel langage. Il n'y a pas de langage plus subtil. Le langage nous oblige à produire des contradictions ou à imaginer ou à établir des contradictions là où il y a des différences de degrés, dit-il. C'est ça la phrase clé dans ce texte, qui est géniale. C'est que, il y a un commentaire magnifique de Deleuze là-dessus. Enfin, tout le commentaire de Deleuze est bâti là-dessus. C'est-à-dire que nous substituons, c'est pour ça que Nietzsche est si farouchement opposé à la dialectique. Parce que la dialectique, c'est précisément établir thèse, antithèse, c'est-à-dire des rapports de contradiction ou des rapports d'identité, là où il n'y a que des rapports de degrés, c'est-à-dire des rapports de différence. Confondre différence et contradiction, c'est ça, en fait, ce à quoi nous oblige le langage, et c'est ça la dialectique, en réalité. Et donc, en se confrontant à ce type de critique géniale, qui va très très loin, puisque oui, ça va jusqu'à la structure logique de notre langage, nous ne pouvons pas faire autrement, en réalité, que d'introduire de la contradiction. Ce qui explique que pour Nietzsche, il faut retravailler le langage, hein, il faut arriver jusqu'à ces structures logiques pour essayer d'extirper, justement, cette simplification du réel auquel, et de l'expérience auquel le langage nous oblige. Et l'idée, pour moi, c'était justement d'arriver à percevoir la négation au-delà de cette simplification incontestable à laquelle mène une négation logique, linguistique. Il fallait chercher quelque chose qui soit plus proche de ce que décrit Nietzsche, c'est-à-dire une négation qui soit plus proche de la différence que de la contradiction.
Quelle différence ?
Et ben justement,
entre la différence et la contradiction ?
Ben justement, quelque chose qui soit de l'ordre... pas de la contradiction, c'est-à-dire pas du « a » non « a ». Et il y a un certain nombre de philosophes contemporains qui ont travaillé justement sur des modalités de la négativité contre la négation. C'est-à-dire dire il faut sortir de ce schéma dialectique permanent entre affirmation-négation, affirmation-négation ou affirmation-contradiction. Il y a une troisième voie, c'est ça que j'essayais de suivre, une négativité sans négation. Quelque chose qui travaille sur un mode critique. L'ironie, par exemple, oui, c'est une négativité sans négation.
Alors, si je vous comprends bien, donc la négation, c'est de dire non. La dialectique est donc ce mouvement qui est aussi une méthode philosophique, notamment Hegel emploie beaucoup. Et je renvoie les auditeurs à la série d'émissions qu'on a fait sur Hegel qui permet de comprendre ce que c'est que la dialectique. C'est pas forcément facile à saisir, même quand on a fait les études de philosophie d'ailleurs. Ce mouvement qui consiste à intégrer le non en son sein. Ouais. La contradiction serait cette opposition frontale entre un oui et un non. Et vous dites qu'il y a une négativité, donc une manière de ne pas consentir à ce qui est, qui ne passe pas par le non.
Exactement.
Et l'ironie serait une de ces modalités.
Exactement. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé d'explorer, c'est trouver sous un certain nombre de nos attitudes, qui passent pas nécessairement justement par la protestation, non, la négation, la contradiction, etc., un certain nombre de nos attitudes dans lesquelles il y a de la négativité, mais dans lequel la négation n'est pas affirmée. Des formes de retrait, de réticence.
Le silence peut être une...
Le silence, l'ironie, c'est-à-dire vous affirmez quelque chose sans l'affirmer. C'est, vous affirmez pas le contraire, mais vous n'affirmez pas non plus ce que vous affirmez. Quand vous êtes sur un mode ironique, ça déstabilise complètement l'affirmation, mais c'est pas une négation, vous dites pas le contraire. C'est la manière dont vous interprétez ce que je suis en train de dire qui fera vivre l'ironie ou pas. Et j'ai essayé d'explorer ces espèces de modes. La pudeur, par exemple, pour moi, qui est fondamentale dans la relation intersubjective, et cette forme de négativité. Le non-merci, dans lequel le non apparaît, mais immédiatement corrigé par une espèce de reconnaissance, de salutation, de retrait poli, me paraît relever de ces types de négativité. C'est-à-dire, justement, se retirer... d'une espèce, et ce retrait est préalable, je pense. Dans le cas des rapports intersubjectifs, on a l'impression que soit c'est la différence, c'est le contraire, c'est l'opposition, c'est le conflit, etc. C'est-à-dire, on interprète la différence entre les individus comme un conflit. Soit c'est l'accord. Et entre les deux, il n'y a pas de milieu. Donc, soit vous êtes avec, soit vous êtes contre. Mais le retrait, la réticence, non merci, une certaine forme de pudeur, c'est au contraire ce qui institue la relation à l'autre. C'est pas la relation à l'autre, c'est pas l'unité fusionnelle, c'est évidemment pas le conflit, mais c'est pas l'unité fusionnelle non plus. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette petite différence, mais qui est fondamentale, qui me sépare d'autrui et qui me permet paradoxalement de communiquer avec lui. C'est-à-dire, je communique pas avec autrui parce que je fais unité avec lui, parce que je fais identité avec lui. Je communique dans la différence. Mais cette différence, elle est instituée par quoi ? C'est pas une négation, c'est pas une contradiction comme telle. C'est bien une différence, justement, quelque chose de négatif. La pudeur, par exemple, encore une fois, c'est ça. C'est d'abord la distance. D'abord la distance. Et tout type de rapprochement, y compris la séduction, l'amour, etc., est fondé sur cette distance. Elle ne l'abolit jamais. C'est toute la différence qui est entre, je sais pas moi, l'amour et le viol, ou l'amour et la violence. Ou la...
Oui, mais puisque vous prenez cet exemple, on va vous rétorquer que la pudeur est bien faible pour opposer un non à une entreprise de harcèlement. Vous voyez, oui, non, mais du coup, l'ironie comme la pudeur ont ceci de peut-être de... d'inefficace parce que trop faible à l'égard d'un non point levé ou d'un non radical.
Mais bien sûr, mais c'est pas, je dis pas que c'est l'aboutissement. Je dis que c'est au contraire le préalable. C'est une condition. Bien sûr que je suis le premier à dire que il y a des choses.
Il faut savoir dire non.
Il y a des quand quelqu'un comprend pas quand on vous dit non merci, eh ben on cesse de dire non merci. On dit non. Et encore une fois, ça me rappelle Geneviève Fraisse. Quand une femme dit non, c'est non. Voilà. Alors, elle commence par dire non merci. Si vous comprenez pas, alors vous êtes dans la tyrannie. Alors, là, c'est autre chose. Et dans la tyrannie, vous dites pas non merci. Vous dites non. Voilà.
Alors, encore un exemple pour vous, Vincent Delecroix, une archive qui va vous surprendre. Souvenez-vous, lorsque le député des Républicains, Éric Ciotti, reprend Christiane Taubira, qui était alors garde des Sceaux à l'Assemblée, et il l'attaque sur sa politique menée pour la réforme de la justice des mineurs. Elle lui répond à l'Assemblée, et c'est un discours que l'on peut qualifier d'ironique.
J'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique, avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Alors, c'est aussi la première fois que le Premier ministre aurait besoin d'un défenseur, compte tenu de sa personnalité, de son courage, de son autorité. Nous avons du mal à comprendre qu'il pourrait non seulement avoir besoin d'un défenseur, mais en plus à le trouver dans ces rangs-là.
Arriver à dire non avec ironie, en faisant rire et en maintenant une forme d'autorité, peu de gens peuvent le faire. C'était le 23 juin 2015 à l'Assemblée nationale, Christiane Taubira donc. Ce qui quand même, Vincent Delecroix, me conduit à penser que pour manier l'ironie, ou même pour manier la pudeur, si tant est que la pudeur est un choix, mais cette distance dont vous parlez, il faut une certaine confiance en soi. Le non a un caractère spontané. Celui qui dit non, qui crie non, et celui qui a peur, qui ne sait pas se défendre autrement. Pour manier l'ironie comme le fait Christiane Taubira, il faut beaucoup de sang-froid, il faut aussi une certaine culture. C'est
absolument
pas de notre monde.
Et il faut certaines circonstances. C'est dans un hémicycle. Hein. C'est-à-dire, et ça transgresse un certain nombre de règles du discours dans l'hémicycle, mais ça reste quand même dans le jeu général du débat parlementaire. Et bien sûr qu'il y a des circonstances. Et encore une fois, tout mon livre vise à essayer d'introduire de la nuance là où on voudrait tout uniformiser. Et bien sûr que vous avez des négations ou des négativités qui sont non pas seulement en fonction des circonstances, mais de l'opération que vous voulez produire. Bien évidemment que la première chose à faire, c'est distinguer, comme on le disait, un nom de la contradiction, de la révolte, et un nom de l'ironie, qui est, encore une fois, j'insiste là-dessus, qui n'est pas la même négation, qui n'est pas la même négativité. Un nom épidermique et un nom hyper réfléchi, hyper sophistiqué, qui joue avec le langage ou pas, et qui, d'une certaine manière, renvoie sans arrêt à toute une échelle, tout un spectre de négation qui en réalité innerve, structure notre vie consciente, qui la rend vertébrée. C'est-à-dire c'est pas simplement depuis le nom du petit gamin dont on s'exaspère, croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir, mais dont on se dit c'est le stade du non, ça va passer, sous-entendu la vie adulte, ça doit être de dire oui apparemment, parce que si le stade du non c'est juste l'enfance ou inversement, ça doit être l'acceptation, la vie adulte, ce qui me déprime au plus haut point. Mais entre on ne s'arrête pas de dire non après 6 ans, il y a d'autres manières, y compris il y a des choses qui m'intéressaient beaucoup, c'est-à-dire y compris des expressions du non totalement inefficaces, purement expressives justement, mais qui pour moi sont absolument centrales. C'est-à-dire, vous savez, ce que tout un chacun a toujours éprouvé, quand il se passe quelque chose auquel vous pouvez strictement rien. Mmh. C'est-à-dire, c'est une catastrophe, mais, ou même c'est dérisoire. Vous laissez tomber votre verre. Oh non !
Par exemple, vous entrez en studio pour faire une émission, l'invité n'est pas là.
Ouais,
ah, m'arrivait tout à l'heure. Catastrophe. Je peux rien y faire.
Enfin, moi, je serais moins poli que juste non.
Que je ne l'ai été.
Probablement. Mais vous voyez, en fait, ce non-là, il dit non à quoi ? À l'ordre des choses. Mais c'est un non totalement impuissant.
C'est un non d'impuissance.
Ça ne changera rien. C'est-à-dire, vous invoquez une possibilité qui est déjà passée. Que je ne lâche pas mon verre, que votre invité soit un peu plus poli, qu'il n'ait pas oublié le rendez-vous. Enfin, je ne sais pas, des choses comme ça. Ce non qui peut être un non tragique, moi je donne l'exemple de l'opéra, c'est-à-dire, c'est aussi le nom de la victime. C'est-à-dire la dernière parole de la victime devant le bras qui s'abat sur elle. C'est-à-dire une espèce de condamnation impuissante de l'ordre du monde, de la violence, de totalement impuissante. Effectivement, c'est un non absolument inefficace parce que ça ne changera strictement rien. Mais c'est comme c'était le premier mot de l'esprit, c'est aussi le dernier mot de l'esprit. C'est-à-dire que vous avez peut-être commencé par un non et probablement, enfin moi j'espère, terminer sur un non. C'est-à-dire y compris
à l'égard. Pas pour la réconciliation.
Non, mais y compris à l'égard de la mort. Quoi. Moi, je suis pas d'accord.
Ouais. se révolter.
Quand ça arrivera, je dirais non. Non. Et cette révolte qui est dérisoire, qui est complètement impuissante, qui est celle aussi de la victime devant un ordre du monde qui l'écrase et qui en prend à son aise dans la comptabilité des vies humaines, et ben je pense que aussi faible soit-il, aussi dérisoire soit-il, ce non sauve. Il sauve celui qui le dit.
Mais il y a bien un oui. Il y a bien un consentement qui n'est pas simplement une acceptation d'un état de fait. Il y a bien... Camus dit au cœur de ma révolte dormait, enfin, il va en Toscane, il comprend, c'est en Toscane, dit-il, que j'ai compris qu'au cœur de ma révolte dormait un consentement. Mais il y a un acquiescement au monde qui vous permet ensuite de dire non.
Ben
on ne commence pas avec un refus.
Exactement, c'est exactement comme ça que je commence mon livre. C'est-à-dire l'idée que ce non, c'est pour ça que je parlais d'éveil de l'esprit, ce non est toujours précédé, mais c'est comme ça que vous vous en rendez compte, c'est en disant non. Il est toujours précédé par un oui, par un consentement.
Mais un
au
vrai
monde.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire un consentement, c'est dire oui, c'est pas simplement.
Non, il est tacite.
Constater
est...
que les choses sont là.
Il est muet. Il est muet, au contraire. Non, c'est la première parole, c'est la première inflexion. C'est-à-dire, vous prenez la parole par rapport à un certain type de mutisme ou de silence. Et encore une fois, ça n'a rien de péjoratif. C'est une acceptation du monde. C'est vital, cette acceptation. Heureusement, je vais pas commencer par me dire non, le monde n'existe pas, non, moi-même je n'ai pas un corps, etc. Tout ça, je l'accepte. On m'a jamais interrogé là-dessus. J'ai jamais dit oui, j'accepte que le monde existe. Oui, j'accepte d'être un individu, etc. Ça. Je dis oui, c'est une croyance basique. C'est un consentement. Et si consentement il y a, alors il doit en passer par le non. Mais honnêtement, alors c'est peut-être dû à mon tempérament bougon, mais honnêtement, cette acceptation ou ce consentement, il sera toujours travaillé, ou il devra toujours être travaillé par cette espèce de vigilance irréductible, inconsolable, irritée peut-être, qu'est le non. Je ne peux pas envisager, même chez Nietzsche, je ne peux pas envisager cette espèce de grand amen à la vie, de ce grand oui, qui nous permettrait de tout accepter, de tout affirmer, et de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce nom. Ça me paraît l'exacte définition de la mort. Les morts, ils disent toujours oui, ça c'est sûr, ils disent toujours oui.
On dit oui aussi au nom d'une certaine harmonie, d'une recherche de paix, de quiétude, de réconciliation. C'est pas forcément une forme de suicide que de dire oui.
Non, mais je cherche pas la guerre, je cherche pas le conflit, je me méfie énormément, encore une fois, de tout ce qui favorise l'identité, la fusion, l'accord imposé. Et je pense que si, justement, il y a des accords, c'est parce qu'ils sont travaillés. C'est paradoxal. Mais encore une fois, la vie politique, par exemple, en donne un excellent exemple.
Mais il nous faut peut-être introduire un concept qui apparaît à la fin de votre livre, Vincent Delecroix, et qui était présent dans le texte de Nietzsche, c'est celui de l'amour. Puisque le texte de Nietzsche finissait quand même avec cette idée qu'une volonté involontaire, elle aime l'erreur, parce qu'elle, la vivante, aime la vie. Donc pas simplement consentir à la vie, mais l'aimer, ce qui n'est pas forcément un choix, et ce qui implique de l'aimer malgré le non. Et vous dites que l'amour est peut-être une des modalités de perpétuation d'un rapport au monde qui peut intégrer le nom.
Oui, absolument. Et justement, c'était là aussi pour éviter de simplifier les choses. C'est-à-dire dire, pour reprendre des termes que j'aime pas trop, vous l'aimez ou vous la quittez, quoi. Grosso modo, vous avez le choix avec la vie. Soit vous lui dites oui, soit si c'est non, vous quittez la vie, quoi.
Alors qu'on est toujours entre les deux.
Alors que vous êtes toujours entre les deux, c'est même la définition de l'existence. Et que cette existence est inquiète, elle est en mouvement permanent. Et encore une fois, pour ce qui est de l'amour, il me paraissait, j'allais dire un peu paradoxalement, mais en réalité quand on y réfléchit 5 minutes, ça paraît évident, il paraissait que la négativité, pas la négation justement, pas le conflit, mais la négativité était la condition même de l'amour. Encore une fois, à moins que vous fassiez allusion à l'amour mystique qui est un abîme dont on peut se méfier à juste titre, c'est-à-dire quelque chose dans lequel disparaît la distinction ou la différence, il faut pour qu'il y ait de l'amour, il faut quelque chose qui préserve la différence entre les êtres. On n'abolit pas cette différence dans l'amour. Au contraire, on la vit. C'est une manière supérieure de vivre la différence.
Donc c'est à l'inverse du banquet de Platon, du mythe d'Aristophane, où on aimerait l'être qui vient nous compléter cet idéal de fusion absolue.
Mais comme vous le savez, dans le banquet, la suprême ironie de Socrate, c'est qu'Aristophane, quand il raconte le mythe de l'androgyne, d'un seul coup, il est pris de hoquet. Il n'arrive pas à terminer son histoire.
Le mythe raconte qu'à l'époque, à l'origine, nous étions comme une sorte de boule, avec quatre bras, quatre jambes, que ces androgyne, les dieux veulent les punir et les coupent en deux.
Exactement.
Et donc ils passent leur vie à chercher leur moitié, ils essayent de s'assembler tant bien que mal. Et ce qui est une espèce de mythe de l'amour comme la fusion suprême est recherchée.
Et le banquet, précisément, l'essentiel du banquet, c'est critiquer cette vision. C'est une vision mythologique, justement, ou mythique. C'est-à-dire, tout le but de Platon, c'est justement, et c'est pour ça qu'il lui substitue une autre version, c'est-à-dire l'amour est fils de pauvreté et de richesse, et non pas, c'est pas le mythe de l'androgyne. Et donc, c'est pas Socrate qui raconte le mythe de l'androgyne, c'est Aristophane, c'est-à-dire un des grands ennemis de Socrate, à dire vrai. Et ce mythe de l'androgyne, c'est précisément ce que combat Platon. Nous ne sommes pas à la recherche de notre autre moitié pour refaire unité. L'amour, ce n'est pas l'unité. Et encore une fois, comme je le disais à l'instant, la manière hyper subtile, très ironique, très humoristique de Platon, c'est de faire en sorte que Aristophane, racontant ce mythe, finalement, il est tellement ivre qu'à la fin, il est pris de hoquet, il n'arrive même plus, et donc de hoquet, c'est-à-dire de répétition, il balbutie, et il n'arrive même plus à articuler le mythe. Et ça, c'est toute la philosophie et notamment la philosophie de Platon. C'est-à-dire, il faut sortir du mythe. Il faut se sortir de ce mythe de l'unité, et ça pour moi c'est fondamental, il faut se sortir de ce mythe de l'unité qui est très dangereuse, et pour de multiples raisons, mais là en l'occurrence, métaphysiquement très dangereux. Et il faut parvenir à comprendre ce que c'est que la différence, il faut parvenir à comprendre, y compris dans l'amour, qui est précisément, et en particulier dans l'amour, qui est précisément ce que nous nous représentons comme le dépassement de la différence. Et l'idée géniale de Platon, c'est de dire, mais si vous voulez penser vraiment l'amour, il va falloir introduire la différence au sein même de l'être. Richesse et pauvreté, c'est-à-dire désir et satiété, manque et plénitude. Mais c'est pas les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux.
Et pourtant, nous avons en nous, force est de le constater, sinon ce mythe d'Aristophane ne parlera à personne, ce désir de fusion, ce désir de complétude, ça correspond bien à quelque chose.
Pur fantasme. Mais c'est du mythe, justement, c'est du mythe. Et Platon nie pas.
Ce que je veux dire, c'est que la nature humaine, peut-être, non pas vous donne tort, mais vous montre que les choses sont encore plus compliquées, que ce serait formidable d'arriver à célébrer la différence, la distance et la pudeur quand tout nous porte finalement à vouloir dévorer l'autre ou ne faire qu'un avec l'autre.
Ouais, peut-être est-ce impossible. Vous avez employé le mot judicieux, je pense.
La dévoration? C'est la fusion qui vous effraie.
C'est surtout que non seulement c'est un... c'est inaccessible probablement, mais c'est à fuir. Enfin, je ne sais pas c'est pas un romantisme de bazar qui fait que on aurait à se méfier des couples qui vont bien ou qui sont toujours d'accord, surtout qui se sont jamais disputés, etc. Ça peut être merveilleux. Hein, c'est Philémon et Baucis, pour reprendre un autre mythe, cette fois-ci emprunté à Virgile. C'est magnifique, Philémon et Baucis. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. C'est super. Alors évidemment, il y a une espèce de romantisme très rock qui consiste à mépriser ce genre d'harmonie. C'est pas du tout mon cas. Hein, je dis pas du tout que le conflit, c'est ce qu'il y a de mieux dans les couples. Je dis simplement qu'il faut faire attention justement à ce mythe qui peut d'ailleurs, entre parenthèses, nous rendre extrêmement malheureux, à ce mythe de l'unité et le prix qu'on a à payer là-dessus. Ça n'empêche aucune harmonie. Encore une fois, pour revenir à Platon, la pensée même de l'harmonie est fondée, non pas, il est vrai, sur la dissonance, mais sur la différence. Sinon, il n'y aurait pas d'harmonie. Vous n'auriez qu'une seule tonalité, c'est-à-dire insupportable. Hein. C'est à peu près le son que doit rendre l'éternité. Et moi, plus tard, j'y arriverai, mieux ça vaudra.
Puisque vous parliez de fantasmes, une autre modalité de la négativité, donc on l'aura compris, la négation, c'est-à-dire non, la négativité, ce sont toutes les modalités de ce non plus subtil, plus nuancé, le retrait, le silence, la différence, la pudeur. Vous évoquez aussi le cas du rêve, et vous parlez de Freud, et vous dites que finalement rêver est une manière aussi d'être dans cette distance, cette négativité.
Ouais, et c'est chez Freud, c'est très intéressant, parce que évidemment, voilà, quelqu'un qui a exploré la négation, enfin, j'allais dire, même le rôle et l'imprégnation la négation dans la vie psychique. La vie psychique, ce n'est rien d'autre chez Freud que ça. Que ce soit refoulement, interdit, négation du réel, enfin, partout, vous trouvez dans la vie psychique, vous trouvez l'usage de la négation. Et le rêve tient à une double négation d'une certaine manière, c'est-à-dire la négation préalable du refoulement et le fait que vous avez une manière de sublimer, c'est-à-dire de nier le réel, de passer par une négation pour réintroduire quelque chose qui a été nié. Bon. Et cette fonction vitale, celui qui rêve pas meurt, hein, cette fonction vitale du rêve me paraît devoir être, j'allais dire, élargie, pas seulement à la vie psychique, mais à la vie philosophique et à la vie politique. C'est-à-dire, comme on sait, les rêves en politique, en général, ça produit plus de mal que de bien. Mais l'idée, c'est aussi que, là aussi, il faut introduire une espèce de nuance entre la négation nécessaire du principe de réalité. Si vous l'acceptez entièrement, vous crevez. Pardonnez-moi de le dire aussi brutalement, mais vous crevez comme une bête. C'est le principe de réalité vous écrase, littéralement. Et donc, qu'est-ce que c'est que notre vie psychique? Sinon, toujours essayer de contourner ce principe de réalité. Toujours l'accepter complètement, c'est impossible. Donc, nous sommes toujours en train de biaiser, toujours en train de ruser, c'est-à-dire toujours en train de dire non à ce qui nous dit non. Parce que c'est ça, hein, le principe de réalité, c'est une négation pure. C'est-à-dire, la première chose qui nous dit non, c'est le réel. C'est-à-dire la limite de nos désirs, la limite de notre corps, même la limite de notre morale, si c'est les interdits sociaux, etc. Bref, le réel, c'est ce qui nous dit non. Et nous sommes toujours en train de nous débrouiller par rapport à cette négation contre laquelle nous butons constamment. Et donc, on nie la négation. C'est une négation de la négation, hein, constamment. Le rêve, c'est ça. Et d'une certaine... Enfin, c'est aussi ça. Et du coup, ça ouvre un champ. Alors, ça vaut pour la politique, ça vaut pour la littérature, l'art, etc. Mmh. C'est-à-dire le champ de la fiction. Ça ouvre un champ dans lequel vous suspendez un certain ordre de réalité, vous le reconfigurez. Et mon idée, c'était de dire, mais en fait, il y a, enfin, c'est pas une idée très originale, il y a une force reconfiguratrice du rêve, c'est évident. C'est-à-dire que il y a une négation du réel tel qu'il est, qui vous permet d'ouvrir un champ de possible. Eh ben non, ça pourrait être autrement que ça n'est. Alors bien sûr, il y a la critique de Spinoza sur le possible, sur le fantasme, l'illusion du possible, c'est-à-dire l'illusion du libre arbitre. Il faut y répondre, mais il y a aussi l'idée que vous ne pouvez pas vous contenter du réel. Enfin, encore une fois, non, vous ne le ferez jamais. Vous ne vous contenterez jamais du réel. Et Dieu merci. Parce que là, encore une fois, c'est un signe de vitalité spirituelle. C'est là, et j'allais dire même, c'est pas simplement l'exercice de votre liberté par rapport à un ordre du monde. C'est pas simplement dire que, il y a un tout petit interstice par lequel vous pouvez vous faufiler. Ça veut dire, la vie de l'esprit, elle commence par dire non à l'ordre du monde. Ça pourrait être autrement.
Mais accepter ça, le reconnaître, demande énormément de courage et surtout, s'engouffrer sur la voie de la réconciliation, peut-être accepter que... J'essaie de vous réconcilier avec vous-même, avec le monde, mais reconnaître que nous ne pourrons jamais dire oui complètement à la vie,
absolument.
Que ce nom-là
est... Mais je ne dis pas plus que ça.
On se sent déjà mieux quand on le reconnaît.
Oui, mais je dis pas plus que ça. Hein. Je suis pas un nihiliste. Je suis pas du tout. Hein. Je dis simplement, par exemple, pour reprendre la fiction et le rêve, je dis simplement que si nous n'avons pas cet espace intermédiaire, ouvert par la négation, la vie est invivable. Et c'est ce que... enfin, un certain nombre de psychanalystes, je pense à J.B. Pantalis par exemple, ou à Winnicott, qui parlait d'espace intermédiaire justement, ou d'espace potentiel, hein, entre la mère et son enfant, ce qu'il appelait l'espace du jeu. Hein, du jeu J-E-U, cet espace du jeu, cette espèce de potentialité qui n'est pas une pure négation du réel, mais qui est une suspension de son principe de réalité, il nous est vital, vital. Évidemment, ça se complique quand vous finissez par nier purement et simplement le réel, c'est-à-dire vous décollez complètement, ça s'appelle la psychose. Là, vous êtes vraiment dans l'espace, ailleurs. Mais entre les deux, il y a un espace ouvert par la négation, et c'est là qu'il faut être.
C'est là où vous avez été dans ce livre et au cours des 50 dernières minutes, Vincent Delecroix. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce livre, Politique, philosophie, littérature et psychanalyse. On trouve toutes ces choses dans votre nom, avec un point d'exclamation, de l'esprit de révolte aux éditions Autrement. Il manque encore un aspect de votre pensée qu'on peut lire tout au long de votre œuvre, car vous avez beaucoup publié, qui revient beaucoup. Vous avez parlé d'esthétique, c'est la musique. On va se quitter avec un chant. Vous parlez de l'opéra. Un nom connu dans un chant, ça vous fait penser à quoi ?
Don Juan, par exemple.
Lequel ? Quel chant ?
Leporello, Don Giovanni.
Notte giorno.
Non, non, non.
Faticada, le voici.
Sopportar, mangiar male, mal dormir. Voglio fare il gentil uomo e non voglio più servir, e non voglio più servir. No, 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 non voglio più servir. O che caro galantuomo, vuoi star dentro con la bella ed io far la sentinella, la sentinella. Voglio far il gentil uomo e non voglio più servir, e non voglio più servir. No, 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 non voglio più servir. Ma mi par che vecchia gente, ma mi par che vecchia gente, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, no, 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 non mi voglio far sentire.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
Pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous nous parlez d'une biographie.
Oui, c'est la biographie d'Olympe de Gouges par Michel Faucheux qui est sortie hier en folio dans l'excellente collection Biographie. Olympe de Gouges plus cette collection, on peut dire que j'étais ravie en découvrant cette parution. J'allais enfin pouvoir découvrir la vie de l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais aussi le contexte et les conditions de son œuvre, ses autres écrits politiques et ses pièces de théâtre. J'allais surtout pouvoir découvrir comment, non pas une femme, mais une auteure avait fait entendre sa voix au moment où tous les citoyens élevaient la leur.
Non, non, j'étais en train de penser tout haut à la Déclaration des droits de l'homme. Vous avez vu, ils l'ont placardé partout.
Ah oui, ça, on l'a vu, hein. Et bientôt, on va pouvoir afficher aussi la Déclaration des droits de la femme.
Non.
Si.
Mon ami Olympe en a commencé la rédaction.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Écoute un peu. Vas-y, Olympe, lis-lui un passage.
Bon, alors, juste un passage parce que j'ai rendez-vous. Article 10, par exemple. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune. Pas mal,
voilà.
Dès l'ouverture de cette biographie, le parti pris est d'orienter la réflexion moins sur le sexe ou le genre d'Olympe de Gouges que sur sa voix, sa prise de parole et la place prise dans un espace public qui est alors en plein bouleversement et en pleine restructuration. Et ça, c'est un parti pris intéressant. Non pas dire quelle était la voix d'Olympe de Gouges, mais comment elle a fait entendre sa voix. Car on imagine bien, sa voix n'a pas été monotone, tantôt dramaturge ou écrivain politique, tantôt mère, fille ou veuve, tantôt femme et citoyenne. iranienne tantôt accusatrice ou elle-même accusée, déjà féministe, marquée, colorée en tout cas par le moment et le lieu d'où elle s'exprime, d'où venait la voix d'Olympe de Gouges, d'où parlait-elle. Née il y a 270 ans en 1748, disparue en 1793, guillotinée sous la terreur pour s'en être prise à Robespierre, Olympe de Gouges s'appelait d'abord Marie Gouze. C'est elle qui choisit de prendre le second prénom de sa mère, Olympe, et de jouer sur son patronyme, manière de se créer un nom, de se préparer à jouer un rôle et à prendre la parole d'une certaine place.
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent à être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, on résolut d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaltérables et sacrés de la femme.
Avant le rôle politique, Olympe de Gouges a d'abord pris la parole et place sur une scène de théâtre, à l'image en cela d'un XVIIIe siècle passionné autant de politique que de théâtre. Auteur d'une quinzaine de pièces, on retrouve dans celle-ci un engagement politique et inversement, ses écrits politiques, il y en a au moins une cinquantaine, sont marqués par le théâtre. La scène devient une tribune et la politique une scène de théâtre où les arguments, les débats et les oppositions sont mis en scène. Citons à cet égard sa pièce « Zamor et Mirza » ou « L'heureux naufrage » dans laquelle elle dénonce l'esclavage, le philosophe corrigé, pièce qu'elle préface d'un autoportrait où elle clame avec sincérité moins ce qu'elle est que l'honnêteté de ses engagements, et puis la pièce « Molière chez Ninon » qui marque son désir d'être entendu comme auteur et grande voix de l'histoire. On voit bien, encore une fois, que c'est moins l'identité de la voix qui compte pour Olympe de Gouges que sa portée. Comme elle le dit au début de ce texte écrit en mai 1789, « Le cri du sage par une femme », il est temps d'élever la voix. Employant souvent d'ailleurs ce terme de cri, on le retrouve ainsi dans son texte « Le cri de l'innocence ». Mais crier pour dire quoi ?
Je demandais le défenseur que j'avais choisi. On me dit qu'il n'y est pas, ou qu'il ne voulait pas se charger de ma cause. J'en demande un autre à son défaut. On me dit que si j'ai assez d'orgueil pour défendre mes amis, sans doute j'en avais de reste pour défendre mon innocence. Qui parlait aux yeux de tous les assistants. Je n'y mis pas ce qu'un défenseur aurait mis pour moi. Je meurs, mon fils, mon cher fils. Je meurs impuissante. On a violé toutes les lois pour la femme la plus vertueuse de son siècle.
Crier pour dire quoi et prendre la parole pour être entendu par qui ? Telles sont les deux questions qui restent avec Olympe de Gouges. Elle s'est inventée un nom et elle s'est inventée par la parole. Elle a ainsi voulu exister dans l'espace public d'abord et avant tout. De cette scène publique et historique, elle a ensuite été éclipsée, marginalisée. Elle reprend vie aujourd'hui grâce au mouvement féministe, à ce genre de biographie qui lui redonne un nom, mais grâce aussi à sa propre voix qu'elle a forgée.
Merci Géraldine. Le titre du livre donc, enfin, de la biographie d'Olympe de Gouges, c'est Olympe de Gouges, j'imagine.
Tout simplement par Michel Faucheux, et on trouve ça en folio dans la collection Biographie.
C'est noté, merci à vous. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, David Pargamin, Maud Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie, Milena Elig qui réalise cette semaine, Élise Le à la prise de son aujourd'hui, Georges Clès à la lecture des textes. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série sur le philosophe Schopenhauer. On parlera d'esthétique, de politique, de morale, mais aussi d'égoïsme, de pitié et d'amour. Schopenhauer sera votre compagnon tous les jours de la semaine prochaine. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission avec Vincent Delecroix sur le nom, titre de son livre, ou bien celle consacrée aux bacs philo qui ont été diffusés cette semaine, c'est très facile, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez, ce qui est un outil très précieux en période de révision du bac. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve lundi donc à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.